Ouais, pas confus, ouais, un peu, en tout cas, non, mais ému, là, c'était vraiment touchant, puis ça m'a beaucoup...
Touché.
Oui, c'est ça. Mais, ouais, déflamboxé, en tout cas. C'est une description de mes émotions. Je suis pas vraiment... En tout cas, ils doivent pas dire ça en Afrique, ou non, hein. Pourtant, déflamboxé... Hey, y'a-tu quelqu'un qui dit ça dans cette église?
Sur l'anglicisme, flummox, ça veut dire quelqu'un qui a été déstabilisé. Flummox.
Ah! Oh.
Fait que là, c'est la version québécoise.
Wow! Ça prend un docteur pour nous expliquer. Wow, merci! Wow, on a des gens instruits dans l'église. Flummox. Savais-tu ça, Kevin?
Je connais
Flomox,
mais...
OK. OK. Wow! Oui, c'est ça! C'est le petit Guillaume illustré! Ouais, c'est ça! Ah, en tout cas... Hey, c'est enregistré, ça, là! J'ai parti la machine, mais bon... Hey, on va se remettre dans ce texte béni. J'aimerais qu'on relise, on va pas lire le chapitre complet, mais on va lire les versets 1 à 13 dans 2 Corinthiens 6. Et ça va être notre texte pour ce matin. Quel beau texte! « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable. » Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons pas scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, quoique inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme chantier, quoique non mis à mort, comme attristé, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Cher Seigneur, on vient devant toi. On te demande que tu te serves de ce temps pour tes plans et tes desseins dans chacune de nos vies. Oui, c'est vrai, Seigneur, ton bras n'est pas trop court pour sauver, pour agir. Mais oui, ce sont nos péchés qui mettent un frein, qui mettent une barrière, Seigneur. Mais on réclame le sang de Jésus. La croix du calvaire auquel on regarde ce matin, s'il y en a qui ne sont pas encore lavés dans ce sang, qui n'ont pas encore mis leur confiance dans le sacrifice de la croix, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Qu'on se réjouisse de voir quelqu'un passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, étant lavés, rachetés, sanctifiés en toi, Seigneur, on veut marcher à la lumière de ce grand salut, de ce si grand et merveilleux pardon que nous avons en Jésus-Christ. Enseigne-nous de ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux. Révèle-toi à nos cœurs. Toi qui te révèles. Toi qui révèles les secrets. Merci, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Saint-Esprit du Dieu vivant. Continue ton œuvre pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, on a un beau texte sous les yeux. Un petit extrait de la vie de Paul. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus détaillé, parce qu'au chapitre 11 du même épître, il nous donne vraiment des grands détails sur, mes amis, une vie extrêmement difficile. Mais j'aimerais souligner que c'est le témoignage de Dieu dans sa vie. C'est la signature, l'empreinte de Dieu qu'on voit dans ce qu'on a lu, spécialement les versets 3 à 10. C'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Dieu qui l'a soutenu dans toutes ses épreuves, qui lui a porté secours, mais encore plus, qui a fait porter du fruit à sa gloire dans toutes ces choses. Et j'aimerais amener ça ce matin avec le texte qu'on vient de lire, avec la fameuse question qui est vieille comme le monde. Pourquoi la souffrance? Pourquoi les épreuves? Pourquoi passer par des vallées, par des choses qu'on ne comprend pas? En une phrase, ce que je veux voir ce matin, Dieu révèle les secrets de l'épreuve. Et non pas dans l'épreuve, mais de l'épreuve. Savez-vous que chaque épreuve vient avec quelque chose dedans? Quelque chose que Dieu veut révéler sur lui-même, puis aussi quelque chose que Dieu veut nous révéler sur nous. C'est ce qu'on va voir. Dieu révèle le secret de l'épreuve. Et on sait que les voix de Dieu sont bien au-dessus de nos voix, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et donc, c'est un trésor de sa grâce lorsqu'il s'y révèle comme ça des choses qui dépassent notre entendement, qu'on n'aurait pas compris autrement. Donc, c'est précieux. On voit que l'épreuve, il y a quelque chose vraiment de précieux à découvrir là-dedans. Je vous donne les mots de Paul lui-même dans le tout début de cet épître, qui dit « Béni soit soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Paul parle comme quelqu'un qui avait découvert la grâce de Dieu au milieu de ses épreuves. Paul a écrit un Corinthien dans un grand temps de trouble, où est-ce qu'il nous dit au tout début de l'épître qu'il a même craint pour sa vie. Il n'y avait plus d'espérance de dire, son espérance était dans le Dieu qui ressuscite les morts. Il savait que son histoire pouvait terminer là, terrestre. Mais Dieu qui a eu compassion, qui a consolé, et dans le fond, c'est ça, l'épître aux Corinthiens nous raconte comment Dieu s'est révélé comme ça au milieu de cette grande épreuve. Et oui, Dieu se révèle dans l'épreuve, mais aussi Dieu révèle les profondeurs du péché, de notre cœur, si trompeur. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ses desseins. Pour voir la gloire de notre Dieu, on le voit encore plus quand c'est sur l'arrière-plan de la noirceur de notre cœur, de nos vies, de notre monde. Ça fait encore plus resplendir la gloire de Dieu. Et tout ça, donc, ça fait partie du plan, du dessein de ce Dieu qui révèle les secrets de l'épreuve et dont Paul avait une part dans ce qu'on vient de lire et dont tous les enfants de Dieu ont part. Et je dirais de façon différente, mais on y a tous part. Et en passant, même ceux qui ne sont pas encore sauvés, Dieu se sert des épreuves. Combien ici on pourrait voir à travers des épreuves, des choses qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas voulu, qu'on n'apprécie pas, mais comment Dieu a pu se servir de ça si on faisait le tour des témoignages ici pour nous amener à Jésus-Christ, pour nous amener à répondre à l'appel de l'Évangile. Dieu est bon parce qu'il nous révèle qui nous sommes en tant que pécheurs. Si vous êtes ici, puis Dieu envoie des épreuves dans votre vie, c'est pas pour vous rendre misérable, c'est pour vous montrer votre besoin de lui, puis vous montrer qu'il est le seul qui est la réponse à ce besoin. Si vous le recherchez, vous allez le trouver. Il nous le promet dans sa parole. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je vais me laisser trouver par vous, qu'il dit dans Jérémie 29, 14. Ou pour reprendre une autre parole de Jésus, « Demandez-vous et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. » Vous savez, quand il nous arrive des choses qu'on n'aime pas, qui sont désagréables, c'est pas juste de même par hasard, c'est pour qu'on cherche Dieu là-dedans. Et si on cherche, on va le trouver. Que ce soit pour être sauvé, pour le rencontrer, pour le salut de notre âme, ou comme enfant de Dieu, découvrir encore plus les merveilles de sa grâce. Donc, je vais vous donner une coupe. Mon introduction est plus longue, mais c'est juste un message à deux points Mais je veux prendre le temps de vous amener une couple d'affaires par rapport à tout ça. L'épreuve, qu'est-ce que Dieu fait. Une couple d'éléments, OK? D'abord, tout le problème du péché, OK? À la lumière de la parole de Dieu, doit pas être affronté en voulant se débarrasser de ce péché-là par les efforts de notre chair. Je pense que depuis que vous venez à l'église, vous savez, hein, la solution au péché, c'est pas de se retrousser les manches pour essayer de s'en débarrasser plus fort, puis avec plus de bonnes intentions, puis en étant plus sincère. Non, on doit reconnaître et accepter par la foi que Dieu lui-même s'est occupé du péché, du problème du péché. S'en est occupé complètement par le sang de la croix, par cette croix précieuse. Et donc, ça, c'est la première chose. Notre part, c'est de croire et de recevoir cette provision. C'est vrai pour le salut, pour comment la vie chrétienne commence. C'est vrai aussi pour tout le reste de la vie chrétienne. La provision de la croix, de ce que tout ce qu'on a en Jésus-Christ, c'est infini, c'est constamment pour nous, les enfants de Dieu. Et là-dessus, je vais vous lire Romains 6, 11 à 13. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'aimerais vous amener un autre élément d'introduction. La seule bonne réponse à notre péché, okay, ce fameux péché dont on vient de commencer de parler, la seule bonne réponse au péché, c'est de le confesser et de s'en repentir. Pourquoi? Parce que c'est la façon par laquelle on peut vivre par la foi à la lumière de cette croix, de cette provision. Et c'est la manière dont on va se soumettre à cette croix. Quand le péché est là, on le confesse. Comme étant, la confession, c'est dire à Dieu la même chose que lui dit sur le péché. C'est pas l'excuser, c'est pas le blâmer sur les autres, c'est pas le minimiser. Quand Dieu dit que c'est un péché, c'est un péché. Mais quand on le voit à la lumière de la croix, on voit que Dieu a payé pour ce péché, qu'on est déjà libéré de ce péché, puis on le confesse, on n'a pas, c'est pas notre vie, ça n'a pas d'affaire avec nous. C'est pour ça qu'on peut vivre sans ce péché aussi. Justement, en le confessant, on se tourne vers Dieu et Dieu donne toujours sa grâce lorsque on vit à la lumière de cette croix. Maintenant, une autre affaire importante à comprendre, le problème du péché, puis avec toutes les épreuves que ça peut aussi encourir, c'est notre responsabilité. Je ne peux pas blâmer Dieu pour mes problèmes, mes épreuves, des choses, puis je ne peux pas non plus blâmer les autres. Pensez-vous, si on finit ça, on va finir dans le jardin d'Éden. Puis, on va jamais régler le problème. Blâmer les autres, blâmer Dieu, c'est pas la façon avec laquelle on doit répondre au péché. On doit prendre la responsabilité pour nous-mêmes. Je vous lis là-dessus, Romains 2, 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Quand on blâme les autres, on fait juste se pointer vers nous-mêmes qu'on fait exactement la même chose. C'est juste qu'on est trop hypocrite pour s'en rendre compte. Donc, face au péché, ça ne sert à rien de blâmer qui que ce soit. Notre Rédempteur, par contre, change nos défaites en victoire par le pouvoir qu'il y a d'assujettir toutes choses. Alors, on n'a pas besoin de se débattre à essayer de trouver le coupable. On a juste besoin de confesser puis de venir humblement à notre Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ, qui nous a déjà donné la provision pour ce péché-là. Comprenez-vous? Tant qu'on va blâmer, on n'ira pas à la croix, on n'ira pas à celui qui est la solution. Donc le péché, au lieu de le blâmer, on en prend la responsabilité pour notre péché, on le confesse et on va à Dieu avec. Une dernière chose que je veux souligner, en guise d'introduction à tout ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que là, on parle du péché, là, mais ça amène des épreuves dans notre vie. C'est quoi? La première réaction de notre chair, ça c'est pas bon, à l'épreuve, c'est de vouloir s'en débarrasser. N'est-ce pas? Ouais. Ah, on a une épreuve. Ah, Seigneur, enlève-moi ça, absolument. Je veux pas souffrir. Je veux pas que ça aille mal. Je veux pas que ça aille comme je voudrais pas. je veux pas que ça aille comme je voudrais pas. Wow, c'est une belle phrase, ça. Mais c'est pas mal comme ça qu'on pense. Mais la parole, elle, et l'esprit, nous enseigne, nous rappelle que le moyen par excellence par lequel Dieu veut nous bénir puis accomplir sa volonté puis qu'on se confie en lui, c'est justement l'épreuve. C'est un moyen dans les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Pour que Dieu puisse, comme ça dit dans Galates 4:19, former Christ en nous, il faut que Dieu nous éprouve. Il faut qu'il nous sorte de notre autosuffisance, de notre complaisance. Parce qu'écoutez bien cette phrase, les choses qui nous plaisent nous laissent comme nous sommes. Mais les choses qui nous déplaisent sont un outil favorable dans les mains de Dieu pour nous transformer. Tout ce qui nous plaît, ça nous laisse comme on est, puis ça ne change pas grand-chose. Mais quand ça nous déplaît, ça nous contraint. Et là, Dieu fait quelque chose avec ça. Parce qu'on est têtu. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Ça pourrait être bien plus facile, mais c'est parce qu'on est têtu. Puis Dieu a besoin d'y aller avec l'épreuve. Et Dieu essaye pas de changer ses voies pour nous plaire. En passant, tu sais, quand on dit « Dieu, je suis pas content de ce que tu fais », c'est comme « Dieu, peux-tu changer tes voies pour me plaire? » Tu sais, des fois, quand on pense aux choses un peu mieux, comment c'est insensé de dire ça à Dieu? « Dieu, change tes plans, là, parce que j'aimerais ça que ça fasse mon affaire à moi. » Tu sais, on est qui? Demander à Job, tu sais, avec Dieu, je veux dire, c'est comme... C'est même pas dans la liste de possibilités de ce qu'on peut arriver avec Dieu, devant lui. Donc, Dieu essaie pas de changer ses voies pour nous plaire, mais... Il nous change afin que nous, on puisse accepter de suivre ses voies. Amen. Il nous change. Le problème, ce n'est pas les voies que Dieu nous amène, c'est nous autres. Qu'on a besoin d'être changés pour les accepter, ses voies, puis marcher dans ses voies. Donc là, on comprend à la lumière de ce que je viens de dire qu'il y a une énorme différence entre simplement souffrir. Juste souffrir parce qu'on souffre, ou souffrir avec un but. Quand il y a une épreuve, qu'on sait que Dieu fait quelque chose là-dedans, il y a pas mal une grosse différence. Je dis, ah non, j'ai une épreuve, puis je m'en vais un peu comme un bateau à la dérive. Puis... Mais non, quand il y a un sens à la souffrance, ça m'aide à l'accepter. Et j'aimerais vous dire que la croix est ce qui donne un sens à la souffrance. Ah! On n'est pas supposé avoir des instruments pareils. Du diable! Ah, je l'ai dit! Excusez. Mais ma femme, je suis sûr qu'elle dit « Amen » dans son cœur. Là, elle rit. On parlait du blâme, là. Je vais blâmer ma femme, c'est de sa faute. Tiens, elle m'a convaincu de ça. Mais oui, ça sert à rien pour faire juste un fou de nous-mêmes. OK. Je vais reculer un petit peu pour dire ce que j'allais dire. Là, pas d'offense, hein? OK. Il y a une énorme différence... Attends, où est-ce que je t'ai rendu? Oui, c'est ça. Il y a une énorme différence entre juste souffrir et souffrir avec un but. Et qu'est-ce qui donne un but à la souffrance? C'est la croix. La croix donne un sens à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre que Dieu a accompli... L'ultime acte qui donne un sens à tout ce qui nous arrive. Christ est au centre de l'épreuve à cause de la croix. Puis à cause de son œuvre de rédemption, ce qui m'arrive prend du sens. Là, je vais vous l'expliquer avec une illustration qui... Une image vaut mille mots. Imaginez que vous êtes à l'hôpital, que vous avez fait une visite d'une personne et que vous arrivez dans la chambre d'hôpital... Puis qu'il y a deux femmes qui sont là, couchées dans un lit. Les deux sont brûlées au troisième degré. La première vous dit, « J'ai honte. Je me suis enivré. J'ai fumé dans mon lit. Je me suis endormi. J'ai mis le feu. Puis là, je suis tout brûlé à cause de ma négligence. » La deuxième, elle aussi brûlée au troisième degré, dit, « Ah, oui, je souffre. Je suis vraiment brûlé, mais... je serais prête à recommencer s'il fallait. Pourquoi? Parce que ma maison a pris en feu, puis je suis allé sauver ma petite fille. Et à cause que j'ai pu aller la chercher puis la sauver, j'ai été brûlé. Mais ça ne me dérange pas, parce que j'ai sauvé ma petite fille. Voyez-vous comment, quand il y a un but à la souffrance, ça change tout? La croix, c'est la délivrance de la souffrance. C'est Christ qui est venu nous chercher. Il a pris la brûlure, il a pris la souffrance. Ça change absolument tout, là. C'est pas juste, oh, parce que j'ai péché, j'ai toutes sortes de mauvaises conséquences, puis j'ai pas... Non, non, la croix donne un but, parce qu'on voit que Dieu opère une délivrance là-dedans. Il est venu pour ça. Puis quand il nous éprouve, il nous ramène à cette croix. Il nous ramène à sa rédemption. Il nous ramène au fait que Dieu fait toutes choses avec un but, et que ce but est centralisé dans l'œuvre rédemptrice de la croix. Toute une différence, un monde de différence. La différence, c'est le but. L'un n'a pas de but, il subit les choses. L'autre amène la vie, amène la délivrance. Wow! Donc, on va répondre tout à fait différemment à l'épreuve, dépendamment à la lumière de quoi on la considère. Si je fais juste voir l'épreuve comme un mal nécessaire, j'ai pas vraiment de but. Mais si je la vois comme étant ce que Dieu se sert pour révéler des choses, pour révéler la croix, je vais l'accepter. Si je fais juste la voir comme quelque chose qui arrive du hasard, ou si je la vois comme venant d'une personne bienveillante, Dieu qui fait quelque chose, ça va complètement changer ma vue de l'épreuve, n'est-ce pas? C'est ça le sens de la souffrance à la lumière de la croix. Il y a une personne derrière. Cette personne, c'est Dieu qui nous aime puis qui fait quelque chose. Tout est une question, vous rappelez-vous, on a vu ça dans le mois d'avril, tout est une question d'où est-ce que mon focus, ma concentration allait. Si Dieu est mon focus, ça va changer tout. Si je vois que Dieu est là, c'est lui qui permet ces choses, c'est lui qui les orchestre, ça va tout changer. Si je vis des problèmes dans mon couple, dans mon église, dans ma famille, ça va complètement changer la dynamique si je vois que Dieu... Et là, puis c'est lui qui fait quelque chose parce qu'il veut révéler quelque chose. Il y a un secret qu'il veut révéler par cette épreuve-là. Il y a un sens. Je ne fais pas genre, oh non, qu'est-ce qui arrive? Puis je ne sais plus où est-ce que je m'en vais avec ça. Non, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux révéler? C'est ça le message. Et voici simplement deux buts. Deux buts que le Dieu qui révèle les secrets dans l'épreuve poursuit avec les épreuves. D'abord, l'épreuve nous révèle notre réel état spirituel. On a lu les versets, hein? Spécialement les versets 3 à 10, comme je disais, avec Paul qui a passé par toutes sortes de choses. Vous savez, ça aurait été facile de Paul de se faire accroire qu'il était un chrétien spirituel, que tout allait bien. Mais quand il passait à travers de ça, le vrai Paul est sorti. Ou ce que Dieu vraiment faisait. Puis c'est pareil pour nous. Avec notre nature pécheresse, notre cœur qui est tortueux au-dessus de toute chose, on peut facilement se faire croire qu'on est des personnes spirituelles. Mais l'épreuve enlève l'apparence, fait ressortir la réalité. Et là-dessus, Jésus, quand il a dit dans Jean 15, verset 2, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. » afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu nous émonde à travers les épreuves, puis là, il amène la lumière de sa parole avec le Saint-Esprit, puis il nous révèle des choses sur nous-mêmes, il nous révèle notre état spirituel. T'es pas aussi fort que tu penses, t'es pas aussi spirituel que tu penses. Puis il dit pas ça pour nous faire du mal, oui, ça nous humilie, mais c'est pour notre bien. Quand on voit notre réel état spirituel, on marche en vérité, on ne marche pas dans le mensonge. Et Paul ici, dans les versets qu'on a déjà lus, ce qu'on voit ici avec Paul, puis le reste de son témoignage, parce que je disais, on voit plus dans le reste de l'épître, c'est que Dieu le sevrait de toute espérance d'être secouru, de trouver la satisfaction ici-bas, en dehors d'en Christ. Autrement dit, Dieu cultivait en lui la pensée de l'éternité, la pensée du céleste. Il attachait ses regards à ce qui est en haut. Et n'est-ce pas ce qu'on a besoin de nous aussi? Et là-dessus, la nature nous enseigne quelque chose. Savez-vous que la maman aigle, tantôt on a chanté quelque chose, ça avait rapport à ça, dans un cantique, c'est ça qu'on a parlé d'un aigle, hein? Mais disons, ça a rapport au message, en tout cas. La maman aigle, quand vient le temps pour les tout-petits d'apprendre à voler. Bon, vous savez qu'il y en a qui est pitch en bas du nid. C'est un peu raide, là. Mais bon, quand t'as des ailes, ça l'aide, pareil. Mais non, elle, parce que... Quand, si elle est pitchée en bas du nid, le nid est tellement haut, je pense que ça serait fatal. Mais ce qu'elle fait, elle met des roches et des brindilles dans le nid. Elle rend le nid inconfortable. Pourquoi? Parce qu'elle est contrainte à voler et à s'émanciper. N'est-ce pas aussi ce que Dieu a fait avec Israël? Il était en Égypte, il aurait pu commencer à trouver... Non, là, il y avait de l'esclavage, puis ça allait pire. Dieu voulait les sortir, les amener vers la terre promise. Et on n'est pas créé, on n'est pas sauvé pour ici-bas, pour se complaire, puis faire notre petit nid tout confortable. Non, Dieu, il fait en sorte que des fois, il y a des roches, puis il y a des enfants qui nous piquent d'un côte, que ça nous dérange. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on s'attache ici-bas. Il veut qu'on s'émancipe. Il veut qu'on aille vers la terre promise. Il ne veut pas qu'on vive juste pour ici-bas, dans le désert de ce monde. On est créé pour plus grand que ça. Et en passant, si quelqu'un n'est pas sauvé, puis vous avez ce sentiment d'inconfort, de quelque chose qui manque, c'est Dieu qui met des brindilles, c'est Dieu qui met des roches dans votre nid pour que vous trouviez votre réconfort en lui, pour que vous voyez qu'il y a une terre promise, que Dieu a bien plus que juste ici-bas. C'est Dieu qui vous appelle à lui. Il y a une autre chose aussi que Dieu fait dans son but de révéler notre état spirituel avec l'épreuve. Et je vous lis un sujet, Romains 5. Écoutez bien. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'épreuve produit la persévérance ou la patience. L'idée, c'est de demeurer sous la pression. Puis on a ça au verset 4 quand ça dit que nous recommandons à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Autrement dit, Paul, là, il y avait le poids des circonstances, des tribulations, des épreuves. Il est demeuré là, sous ce poids-là. Il est demeuré sous... le fardeau de la vie dans un monde déchu et de péché. Et à cause qu'il est demeuré là, Dieu l'a rencontré là. Dieu lui a révélé des choses précieuses, grandes et cachées qu'il ne connaissait pas et que Dieu avait préparées pour lui. Et ça l'a porté du bon fruit, n'est-ce pas? On voit, hein? Ça l'a produit... la pureté, la connaissance, la longanimité, la bonté... L'Esprit Saint avait une liberté dans sa vie, un amour sincère. Toutes sortes de bonnes choses que ça l'a produit, cette patience dans la tribulation, cette patience dans l'épreuve. C'est le fruit de la grâce de Dieu lorsqu'on le rencontre. Mais Dieu nous rencontre là au moment où est-ce qu'on s'humilie par rapport à ce qu'on est vraiment. Tant qu'on veut jouer à la prétention, tant qu'on veut se faire des accroire, qu'on est plus que ce qu'on est réellement. On bloque, on l'empêche. Pourquoi? Parce que Dieu permet les épreuves. D'abord, pour ce point-là, tellement important, si on veut le rencontrer, il faut qu'on voit comment on est réellement. Dieu veut nous révéler notre réel état spirituel. Pas ce qu'on pense qu'on est, mais ce qu'on est réellement. Juste un petit indice là-dessus, c'est tout le temps moins bon que ce que nous, on penserait. Nous, on pense donc qu'on est mieux, tu sais. Puis... Mais Dieu révèle la vérité. Il nous révèle qu'on n'est que chair. Il rêve qu'on n'est que poussière. Mais c'est correct. Parce que Dieu donne la vie à ce qui est mort, à ce qui n'est que poussière. Donc, c'est pas grave. Ça nous amène au deuxième point. Parce qu'une fois qu'on voit qui on est réellement, ça nous amène à découvrir qui Dieu est, lui, réellement. Donc, c'est la deuxième chose que Dieu révèle par l'épreuve. L'épreuve nous révèle qui Dieu est réellement. Et ça... Je vois ça dans les versets 11 à 13. Elle dit « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vos cœurs. » Je vais revenir là-dessus pourquoi je vois quelque chose vraiment spécial de Dieu là-dedans. Mais d'abord, vous savez qu'avec notre pensée, notre imagination idolâtre, c'est facile, c'est naturel de se fabriquer un Dieu à notre image. Un Dieu qu'on s'imagine être Dieu, mais qui n'est pas le Dieu tel qu'il se révèle dans la parole de Dieu. C'est dans notre nature humaine de faire ça. Hey, les pires idoles, c'est pas ceux-là comme on voit là, dans la Bible, là, des petites statuettes et tout ça. C'est ceux qu'on s'imagine dans notre cœur que Dieu est comme ça. OK? Un Dieu qui n'est pas plus grand, qui n'est pas vraiment grand, qui n'est pas au-dessus de toute chose, qui n'est pas au contrôle des épreuves que nous traversons. De cette manière, c'est facile de dire, « Ah, gloire à Dieu, Dieu est bon, tout ça, dans les temps d'aisance. » Mais quand on est au milieu de la tempête, là, la réalité de ce Dieu-là ressort. Est-ce que c'est vraiment le Dieu que je connais? Là, la réalité de la foi dans les paroles que je disais, Dieu est bon, tu le crois-tu vraiment? Est-ce que vraiment tu rends gloire à Dieu alors qu'il est en train de te dépouiller de toutes tes espérances, il est en train d'enlever tout ce dont dans quoi tu te confiais? Est-ce qu'il est encore bon? Est-ce que tu lui rends vraiment gloire de ton cœur? Est-ce que tu dis ces paroles en esprit, en vérité? C'est quoi? C'est là qu'on voit. Est-ce que c'était des paroles en l'air? Ou est-ce que c'est vraiment un acte d'adoration? Savez-vous, l'adoration la plus vraie, la plus authentique, c'est lorsque Dieu nous révèle qui on est, réellement. Et que là, dans le milieu de cette épreuve, même si ça fait mal, qu'on rend gloire à Dieu. Ça, c'est l'adoration authentique de Dieu. En esprit et en vérité. Comme on dit au Québec, c'est pas du fake. C'est authentique. Et les versets qu'on a vus ici, je pense qu'ils illustrent, les versets 11 à 13, ils illustrent, ils incarnent le cœur de Dieu pour les Corinthiens. Il dit, « Hey, vous n'êtes pas à l'étroit, notre cœur s'est élargi. » Paul disait ça. Pensez-vous que Dieu aussi se sentait de même par rapport aux Corinthiens? Pensez-vous aussi qu'il se sent de même par rapport à nous autres? Absolument. Paul, ici, il montre c'est quoi la disposition de Dieu qu'il avait envers les Corinthiens. Pas parce que Paul était donc un bon gars. Non, c'est parce que Dieu faisait une œuvre bonne dans le cœur de Paul. Et Dieu utilisait l'épreuve, ce qu'on a vu à travers les versets 1 à 10, pour faire cette œuvre dans le cœur de Paul. Et Dieu se révélait ainsi à Paul. Et de cette façon, Paul, qui a passé par la tempête, par le désert, par toutes sortes de choses vraiment difficiles, contrairement aux Israélites qu'eux autres revendiquaient le confort et la satisfaction, Paul, dans les mêmes épreuves, au lieu de rechercher ce qui était bon pour lui-même et ce qu'il voulait, Paul cherchait Dieu dans l'épreuve, puis a trouvé Dieu dans l'épreuve. Dans ce qu'on a vu de ce que Paul vivait, sûrement qu'il a dû se plaindre à un moment donné, puis il n'était pas content. Mais Dieu a saisi son cœur, puis il est allé au-delà de ça. Il n'est pas resté comme l'Israélite. Non, j'aimerais savoir les cocombes d'Égypte. J'aimerais ça que ça soit plus facile comme avant. Probablement qu'il y a eu une phase de même. Paul veut dire que c'est un homme de la même nature que nous. Mais il n'a pas resté là. Il a été au-delà de ça, puis il a dit, Dieu, OK, t'es où là-dedans? Dieu, je me rends compte que j'ai plus rien, puis c'est vraiment toi que j'ai besoin, rien d'autre. Et il a trouvé ce Dieu-là, puis il incarne ce Dieu-là face aux Corinthiens. Et savez-vous quoi? Paul était dans la tempête, il était dans les choses, mais savez-vous quoi? Il dit que les soucis des églises, à chaque jour, ça lui donnait, ça le pesait. Et sûrement que les Corinthiens ont dû faire partie de ce lot-là. Il a dû pleurer, puis avoir beaucoup de peine pour ces fameux Corinthiens qui l'aimaient tant. Les Galates aussi, puis vous savez, c'était des choses lourdes sur son cœur, mais il cherchait Dieu là-dedans et Dieu s'est laissé trouver. Dieu s'est révélé à Paul d'une façon unique et c'est ça qu'il avait à donner aux Corinthiens. C'est ça ici qu'il exprime. Ce que lui a trouvé de Dieu est en train maintenant de donner aux Corinthiens. Dieu avait élargi son cœur pour Paul et maintenant Paul élargissait le sien pour les Corinthiens. Paul avait recherché Dieu comme étant le but de son épreuve. Dieu s'était révélé à lui à cause de ça. Et maintenant, c'est ce qu'il y avait, ce trésor qui était caché dans cette épreuve. C'est ce qu'il y avait à partager avec les Corinthiens. Les tempêtes et les déserts, c'est ce qui nous introduit à une plus grande révélation et appréciation de Dieu. Et quand je dis révélation, je ne dis pas qu'on va voir une grosse image nécessairement, tu sais, écran, plasma, puis tout ça. Non, mais dans le sens que Dieu se révèle à nos cœurs. On a un sens de la présence de Dieu, de son réconfort, de la réalité de sa présence d'une façon bien unique et vraie. Et ça, N'est-ce pas vrai que c'est dans les plus grandes épreuves qu'on a vécu ça? Vous savez, lorsque Jésus dormait dans le bateau, c'est quand même spécial. Jésus dormait dans le bateau en pleine tempête. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Ne te soucies-tu pas que nous périssons? C'est quoi la réponse, pensez-vous? Évidemment qu'ils se souciaient d'eux autres, puis ils ne voulaient pas qu'ils périssent. Mais j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Jésus se souciait, oui, d'eux autres, mais se souciait surtout de leur foi, qu'il voulait fortifier avec ce qu'il était en train de faire. Jésus avait toujours une leçon d'objet. Il dormait, il avait quelque chose à leur enseigner avec ça. Pourquoi? Jésus voulait pas simplement calmer la tempête, mais il voulait leur montrer qu'ils pouvaient traverser la tempête tout en dormant, tout en étant calme. Parce qu'aucune tempête ne peut chavirer le Fils de Dieu.
Amen.
Il n'y avait rien, c'était ça la leçon. Puis malheureusement, ils l'ont manqué. Hein, est-ce que tu te soucies pas? Évidemment qu'ils se souciaient, mais ils se souciaient de quelque chose que d'autres ne voyaient même pas encore. Dieu voulait leur révéler quelque chose sur eux-mêmes et sur lui qu'ils ne voyaient pas encore. Puis ça prenait cette épreuve-là. Voyez-vous? C'est notre message dans une coquille de noix ce matin. Et c'est vrai, c'est merveilleux de voir Jésus calmer la tempête, et ils l'ont vu. Mais n'est-ce pas encore mieux de le voir traverser la tempête de façon triomphale? Et eux, donc, ils ont manqué la gloire de Dieu en ce sens. Et c'est pareil pour nous lorsqu'on veut arrêter les tempêtes dans nos vies. « Non, Seigneur, j'en veux pas des tempêtes. Ne te soucies-tu pas que je suis en train de souffrir? » Parce que c'est pas tant la foi pour calmer une tempête, mais de rester calme dans la tempête. Ça prend la foi pour ça, pour rester calme dans la tempête. Jésus, lui, dormait. Il était plus que calme. Il avait zéro souci. Vous essaierez ça de voir la prochaine fois. N'est-ce pas une leçon valable qu'il leur donnait là? N'est-ce pas que nous-mêmes, des fois, on la manque? C'est là, « Hey, c'est vrai, Jésus, comment ça? » Il y avait quelque chose qui leur montrait là sur le calme dans la tempête. La foi, c'est la solution à nos problèmes dans ce sens où est-ce que... Pas qu'elle fait disparaître nos problèmes. Ah, si j'ai la foi, j'aurais plus de problèmes. Je pense pas qu'il y a personne qui pense ça ici. Mais la foi, c'est la solution en ce que elle nous révèle qui Dieu est réellement, afin que dans les problèmes, on puisse se rendre compte comment il est suffisant, comment sa grâce est là, comment on n'a rien besoin d'autre si on a Dieu. On n'a pas à promener nos regards inquiets. Parce que lui-même nous soutient de sa droite triomphante. Donc, on doit apprendre à bien répondre à ce Dieu qui révèle le secret de l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est le moyen, ok? Dieu, comme ça, qui révèle le secret des preuves, c'est le moyen par lequel il nous introduit à quelque chose qu'on ne connaissait pas encore de lui. Comme nos disciples ici, dans le bateau. Donc, le chrétien se fortifie dans la foi lorsqu'il répond comme ça à ses épreuves. Non pas en les fuyant, puis en priant, « Seigneur, enlève mes épreuves! » Non, mais en passant au travers, en cherchant Dieu là-dedans, en cherchant sa pensée, en cherchant ce qu'il veut révéler sur lui-même. C'est précisément ça, le but du Dieu qui révèle le trésor de l'épreuve. Est-ce que vraiment je vois, j'approche mon épreuve comme un « Oh Seigneur, j'ai hâte de voir le trésor que tu vas me montrer. » C'est ce que la foi dit. C'est pas ce que la chair dit. La chair dit « Oh, au secours, j'en veux pas. » La foi voit qu'il y a un trésor. Puis le trésor, c'est Dieu, c'est lui-même qui veut nous révéler quelque chose sur nous-mêmes et sur lui. Écoutez ce que Paul dit, tellement beau verset dans Philippiens 3:8. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Paul a regardé sa vie, les épreuves, son passé et tout ça, comme absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il comparait ça au fait de connaître Dieu. Ce Dieu qui se révèle, lui, le trésor de l'épreuve, et dit tout le reste, c'est absolument rien. Pourquoi? Parce que si j'ai ça, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Wow! à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc, es-tu motivé à le trouver dans tes épreuves? Est-ce que tu es motivé à le trouver dans les épreuves qu'il t'envoie à toi? Dieu est personnel, Dieu aime et il le montre comme ça. C'est pas dans sa colère qu'il nous envoie les épreuves, c'est dans son amour. Parce qu'il nous aime assez pour nous montrer dans quel réel état spirituel nous sommes. Il veut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Il veut pas qu'on fuit l'épreuve comme notre chair voudrait le faire. Hein? C'est notre instinct d'autopréservation. Ah non, l'Esprit nous conduit dans toute l'épreuve. Comme il a conduit Jésus dans le désert pour être éprouvé, tenté par Satan. Et il est lui-même le but de l'épreuve. Et l'Esprit veut nous le faire trouver au milieu même de l'épreuve. Le trouver, lui, notre tout en tous. Je termine avec un homme que vous connaissez bien. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Monsieur Jonas. Ah, notre cher Jonas. N'est-ce pas que... Et vous, on le regarde, on dit, il est bien têtu, il est bien cabochon, notre cher Jonas. Dieu demande quelque chose clairement, puis il s'en va complètement à l'opposé, il fait complètement l'inverse de ce que Dieu a dit. Dieu, j'en veux pas de ton épreuve, puis même que moi, là, je vais m'arranger pour avoir rien à faire, même pas de proche avec. Il a résisté à la voix céleste, au plan de Dieu, aux voix de Dieu, à l'ordre de Dieu. Le résultat, ben, ça a été une épreuve où est-ce qu'il a découvert son réel état spirituel. Rebelle, endurci. Tu sais, il pensait au Nini qui était d'homme, mais il s'est rendu compte que lui était rebelle, endurci, têtu, sans compassion pour ses âmes perdues. C'est probablement ce qu'il pensait des Ninivites, mais Dieu a dit, t'es de même. Je parlais de Romains 12.1. Oh, toi, homme qui juge, tu fais les mêmes choses. Dieu s'est révélé, lui a révélé qui il était. Mais en plus, Dieu n'a pas fini là. Parce que Dieu aussi a révélé qui il était, comment il était patient, aimant dans son châtiment. Il était tout puissant pour prendre un poisson puis le ramener au centre de sa volonté. Comment il était plein d'amour, de compassion pour un rebelle endurci, têtu et pas compatissant comme lui. Vous savez quoi? Ça voulait dire qu'il pouvait faire exactement pareil avec les méchants Ninivites. Il peut le faire avec un méchant Jonas, il pouvait le faire avec les méchants Ninivites. N'est-ce pas qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans? Qui, encore là, nous amène le message dans une image. Lui qui pensait donc être tout correct, puis qui disait, ah, eux autres sont donc méchants. Il dit, t'es exactement comme eux autres, puis tu te tiens tout comme eux autres dans le besoin de ma grâce. Et tout comme eux autres ont besoin du Dieu compatissant et plein de grâce que je suis, t'en as besoin, Jonas. Et écoutez bien. C'est comme ça que Dieu a opéré une délivrance miraculeuse dans la ville de Ninive, qui a commencé avec une délivrance miraculeuse dans le cœur de son serviteur Jonas. Il devait être délivré de lui-même. Il était prisonnier de lui-même. Puis c'est l'épreuve qui a été l'instrument pour le délivrer de son orgueil, son entêtement, son aveuglement. Oh, mes amis, Dieu peut opérer des grandes délivrances, mais il ne pourra pas les opérer tant qu'on ne s'humilie pas devant lui, tant qu'on n'arrive pas comme Jonas au bout de nous-mêmes, puis qu'on laisse opérer sa délivrance. Donc, mon appel, c'est simplement ça. Cédez à la volonté de celui qui sert de l'épreuve pour vous révéler qui vous êtes, puis révéler qui il est réellement. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement, il date d'à peu près 70 ans. Il a été écrit dans les années 50, fin de 40-50. Et je vous laisse avec une prière d'un jeune homme. Un jeune homme qui, dans un temps de réveil, où est-ce que Dieu travaillait, puis tout ça, a prié de la manière suivante. Et je vais simplement le lire, puis ensuite je vais prier, puis ensuite ça va être à vous de prier. Voici ce que le jeune homme dit. « Seigneur, je ne questionne pas ta providence dans cette épreuve, mais donne-moi seulement la grâce de supporter tout ce que tu décides de permettre de m'envoyer. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire à travers cette épreuve. » Ça sonne pas mal comme quelqu'un qui cherche le trésor de l'épreuve. Écoutez cette dernière phrase. « Seigneur, Aide-moi à être un bon témoin dans cette épreuve, afin que le monde puisse voir ce que Dieu peut faire pour un homme qui se confie en toi. Amen. Seigneur, merci ce matin que tu nous ramènes à toi. Merci pour le trésor de l'épreuve. Le trésor de nous refléter dans le miroir de ta parole qui nous sommes réellement. De briser nos cœurs trompeurs, notre tendance tellement automatique à vouloir fuir l'épreuve, à vouloir aller loin de où est-ce que tu veux nous amener. Ah, mais Seigneur, encore merci encore plus que ce trésor le plus précieux de l'épreuve, c'est que tu te révèles à nous. Et Seigneur, qu'on ait ce désir profond, puissant, de te trouver dans l'épreuve. Seigneur, je te prie que au lieu de fuir l'épreuve, au lieu d'être comme les disciples qui voulaient que la tempête arrête, de voir ce que tu peux faire quand on peut rester calme à travers la tempête, qu'est-ce que tu peux te révéler à travers des circonstances de même? Seigneur, ta parole a été proclamée, maintenant je te prie que ton peuple réponde par la foi, dans la simplicité de la foi, humblement devant toi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez prier.